connaissance du sport est incontestable. 34 ans d'inspiration, de passion, 34 ans de dévouement. Consultant expert en business du sport, voici Ray Lalonde!
Ray Lalonde, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci vous autres.
Oui, ça va bien, merci. Ray, est-ce que ce matin, ou depuis hier soir, t'es scandalisé du fait que le Canadien de Montréal n'ait pas repêché un seul Québécois, même universitaire américain, aucun produit de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, aucun Québécois? Est-ce que ça te choque?
Je suis pas scandalisé, je suis pas choqué, mais je suis pas étonné. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas qu'il faut avoir trop d'attentes vis-à-vis une vision communautaire des Canadiens. Et je le critique pas, là, mais c'est sûr qu'il y a un manque de sensibilité à ce niveau-là de la part du club. Il y avait de très bons prospects québécois, évidemment, en commençant par Alexis Lafrenière, bien sûr, mais celui-ci n'était pas disponible pour les Canadiens, mais il y en avait d'autres. Et l'autre chose, c'est que je suis un promoteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a plusieurs franchises, qui fonctionnent de façon très productive et efficace. Le hockey junior majeur québécois se défend très bien à la Coupe Memorial à chaque année, remporte la Coupe régulièrement. Donc, forcément, on a des bonnes équipes au Québec et dans les Maritimes. La Ligue est une des ligues leaders au Canada. Il y en a trois, mais pour connaître les trois à fond, pour avoir participé à des sessions avec chacune d'entre elles, je peux te dire qu'au Québec, on essaie d'être en avant de cette parade-là, puis on essaie d'être innovateur et progressif. Et quand je vois une certaine forme d'indifférence vis-à-vis le talent québécois, ça me déçoit un peu, mais les gens qui sont au Centre Bell pour les Canadiens, ils sont payés pour leur travail. Donc, il faut les rendre responsables et imputables à la fois. Si les Canadiens trouvent que à talent égal, il y avait des préférences de choisir des Québécois, ils l'auraient fait. Peut-être qu'ils pensent que le talent était supérieur ailleurs. Ça, il faudrait leur demander.
Oui, parce que depuis... Ça, c'est la statistique qui tue, comme on dit. Là, depuis les quatre dernières saisons, il n'y a aucun joueur de la Ligue de hockey junior-major du Québec, aucun Québécois, qui a été repêché entre la première et la quatrième ronde. Est-ce que, depuis Louis Leblanc, est-ce que ça se peut qu'on évite même de prendre des Québécois? Ou c'est de la folie, ça?
Bien, encore une fois, tu sais, c'est une bonne question. Je peux pas savoir si on évite par exprès. J'espère que non. Je peux pas savoir non plus que... Je peux pas penser que... Compte tenu du marché québécois puis de l'importance de ce marché-là en termes de consommateurs québécois, fans des Canadiens, la commercialisation qui est essentielle ici au Québec pour cette équipe-là, comme dans tous les marchés, les Canadiens ont besoin de leurs partisans. Ils ont besoin de l'engagement de ces gens-là. Ils ont besoin de l'investissement. Ils ont besoin de leur argent puis leur temps discrétionnaire. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens choisir les joueurs. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'il faut être relativement sensible à quelque chose qui est particulier dans ce marché-là. Parmi les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey, il n'y en a aucune qui vivent quotidiennement avec deux langues officielles à temps plein, pas juste un peu de français à Ottawa pour les sénateurs, mais au Québec, avec les Canadiens, c'est à temps plein, avec un marché composé de partenaires marketing et de médias francophones d'abord et anglophones par la suite. Donc, je pense que les Canadiens doivent évidemment être bien au courant de ça. Mais encore une fois, ce sont des décisions de deux, trois individus. Alors, il faudrait poser la question de façon directe, mais c'est certain que je trouve ça dommage, compte tenu du fait que d'autres équipes qui trouvent que les joueurs canadiens et les dirigeants canadiens, québécois, valent la peine d'être sélectionnés. Puis, tu sais, je regarde le Lightning de Tampa Bay, ouais, avec Julien Brisebois en tête, avec d'autres dirigeants, d'autres joueurs. Il y a des gens francophones qui proviennent du Québec partout dans cette organisation-là. Bon, apparemment, on doit être capable de faire ça correctement. Ils sont les champions de la Ligue. Alors, ceci étant, encore une fois, il faut toujours regarder le bulletin. Le bulletin, c'est le résultat sur la glace. Si les Canadiens gagnent la Coupe Stanley à chaque année, je ne pense pas que quelqu'un va se plaindre que les joueurs soient composés, mettons, d'étrangers seulement, provenant de d'autres pays. Mais quand l'équipe ne performe pas, ça devient un sujet de discussion puis de débat Puis chacun a une opinion différente là-dessus.
Parce que je me souviens à l'époque, Serge Chavard, qui disait que lui, les Québécois, fallait pas qu'il en échappe un, surtout quand c'était des jeunes joueurs autonomes, des agents libres, là, ben des jeunes joueurs pas repêchés. Fallait absolument pas que le Canadien de Montréal échappe un Québécois. Et là, bon, moi, j'ai 45 ans, fait que les deux coupes du Canadien que je me souviens, c'est 86 et 93. Et il y avait effectivement plusieurs Québécois. Mais il y avait 21 clubs dans ce temps-là. Bon, pas 93, t'avais Ottawa, Tampa qui était rentré, si ma mémoire est bonne, mais il y avait 21 clubs. Est-ce que c'est possible, avec une mentalité comme ça en 2020, de dire ça nous prend tout ce qu'il y a de Québécois ou c'est rêvé en couleur?
Bien, je pense que ça prend tout ce qui est meilleur comme talent. On doit choisir le meilleur joueur, coûte que coûte, si on veut gagner. Tu sais, un repêchage, là, dans les autres années, il y a 10-15 ans, dans tous les sports, c'était toujours position par position. Défenseur droit, défenseur gauche, ailier droit, gardien de but, bien sûr. Puis là, tu as une autre catégorie là, qui s'appelle meilleur joueur. Fait que là, tu as un tableau devant toi avec toutes ces listes-là. Puis quand un joueur se fait sélectionner, ben tu enlèves son nom, il est plus disponible. Puis là, à un moment donné, c'est quoi ton besoin à toi comme équipe? Peu importe le sport, là. Ça peut être au basketball, ça peut être au football. C'est d'abord tes besoins. Mais ultimement, quand des équipes professionnelles évalue l'avenir. La première chose qui vient en tête, généralement, là, c'est meilleur athlète, meilleur joueur. Si un meilleur joueur est disponible, puis c'est pas dans la position que tu recherches, ben là, tu as une sérieuse question à te poser. Parce que si tu laisses passer un meilleur joueur, mais tu en as beaucoup de joueurs de centre, mais celui-là, il est tellement bon, puis il est toujours disponible, ben là, moi, personnellement, j'aurais tendance à croire que faut que tu ailles avec le meilleur joueur disponible. Puis si tu as trop de joueurs de centre par la suite, bien là, tu as un beau problème sur les bras. Puis peut-être que ça sert de monnaie d'échange ou de transaction. Alors, si les Canadiens ont jugé qu'au fil des choix, cette année, mais dans les années passées, comme tu l'as dit, il n'y avait pas suffisamment de bons Québécois, bons joueurs, assez bons joueurs ou meilleurs que ceux qu'il y avait sur leur liste, ça, c'est leur choix. Mais je vais te donner un autre angle.
Ouais.
Il y a 20 ans, 30 ans, le taux de disponibilité puis de participation de joueurs américains était moins élevé. Les Européens étaient dans la Ligue nationale, mais pas au même niveau qu'aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, c'est le pourcentage de joueurs canadiens qui a diminué un peu dans la Ligue nationale de hockey. Donc, quand tu dis Canada, il faut que tu inclues Québec. Le hockey, maintenant, est devenu un sport plus accessible dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que c'est aussi populaire que le soccer ou le basketball, mais ce que ça veut dire, c'est que tu as des bons joueurs qui peuvent sortir, tu sais, de la Lettonie, de l'Allemagne, comme on voit cette année, par exemple.
Oui.
Alors, il y a des nouveaux pays maintenant qui ont atteint un niveau élite amateur qui permettent de compétitionner avec les meilleurs Nord-Américains. Puis en passant, USA Hockey, comme fédération, fait un excellent job de produire des équipes compétitives, des joueurs, des jeunes, dans des marchés non traditionnels. Rappelle-toi que faut que toujours que tu te donnes une génération de 25 ans à peu près pour arriver à pénétrer un marché sportif commercialement, mais aussi en termes de développement local. Fait que peut-être que les dirigeants d'équipe regardent le monde entier différemment que juste ce qui est au Québec. T'sais, moi, je prétends que la capitale de production de joueurs de hockey, c'est Toronto. La région de Toronto, tout autour, c'est il y a tellement d'équipes juniors majeures de la OHL, mais il y en a aussi dans le junior A. Il y a junior A. Qui est l'équivalent de Junior 3A au Québec, dans la région de Toronto, tout autour de l'Ontario. Il y en a des joueurs de hockey en Ontario. Puis tu regardes ceux qui sont repêchés souvent, qui font partie des équipes élites dans l'équipe Canada, Toronto domine beaucoup à ce niveau-là. Pas les Maple Leafs, ça. Le marché de Toronto, qui est un gros marché de hockey. Donc, à quelque part, le Québec doit continuer de faire ses preuves, travailler. Ces joueurs-là, écoute, s'ils jouent pour d'autres équipes, ils peuvent avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey. Ça a été prouvé. Le Canadien a laissé échapper plusieurs joueurs qui sont devenus d'excellents contributeurs avec des équipes ailleurs, malheureusement, à nos dépens.
Ouais. Tu as parlé d'USA Hockey. Est-ce que la Ligue canadienne de hockey devrait, plus, ce sera une grosse réflexion là-dessus, mais est-ce qu'on devrait revoir le temps qu'on accorde pour signer le joueur? Parce que maintenant, il y a une limite de 50 contrats. Donc, quand même que tu as plein de choix de repêchage, si dans deux ans, tu n'es pas capable de les signer parce que tu ne tasseras pas un Gallagher ou un Weber de ta liste de contrats pour faire de la place à un prospect, est-ce que la NCAA, USA Hockey, comme tu l'as dit tantôt, ça te laisse 4 ans pour signer un joueur? Ligue canadienne de hockey, 2 ans. On devrait peut-être mettre ça à 3?
c'est certain qu'il y a un avantage du côté des États-Unis avec la NCAA. Connaissant ça à fond, là, pour avoir été là il y a des années comme employé et coach, mais aussi mon fils a joué au hockey à l'école secondaire au Minnesota, c'est un système qui permet aux jeunes de se développer davantage. Effectivement, ils sont repêchés. Il y en a eu des joueurs qui ont été repêchés là, hier, là, provenant de high school américain. Ils ont 18 ans. Ils n'ont pas encore joué au niveau junior majeur, ça c'est sûr. Mais ils ont plus de temps. Parce qu'ils rentrent dans les universités, puis ils s'apprêtent à entamer une carrière de 3-4 ans. Les meilleurs, ça dure 2 ans, puis là, ils sont prêts pour la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. Les autres ont 4 ans. Fait que les équipes ne sont pas pressées de leur donner un contrat. Ça, c'est sûr que c'est long. C'est peut-être un peu trop long, mais pour le développement du jeune, Marc, ça, c'est impératif. Moi, je crois fondamentalement que c'est pas tous les jeunes qui sont prêts à entamer une carrière dans la Ligue nationale à 18, 19, 20 ans. Là. Surtout quand tu penses à des positions clés comme gardien de but, c'est souvent 23, 24 ans. Il y a toujours des exceptions, mais il faut être patient avec ces jeunes-là. C'est compétitif. Puis, tu sais, les anciens joueurs ou les joueurs vétérans, leur carrière dure plus longtemps parce qu'ils sont en meilleure condition, parce qu'on a des meilleurs moyens pour les garder,
ouais.
Parce qu'ils acceptent peut-être une baisse de salaire plus tard dans leur carrière pour terminer leur jour puis étirer leur carrière jusqu'à 35 ans. Fait que ça fait beaucoup de congestion, ça, en même temps. Alors, il y a toutes sortes de facteurs. Il faut regarder objectivement, avec un peu de recul, la situation. Mais c'est clair que les équipes regardent toujours ça en disant, est-ce que c'est un investissement à long terme ou à court terme ou à moyen terme? Je m'achète un actif, ça va me coûter moins cher ces jeunes-là, comment que je reconstruis mon équipe? Parce que, ultimement, c'est une business de gagner des matchs.
Mm-hmm.
C'est une business de divertir puis d'être compétitif rapidement. Alors, moi, je crois à l'excellence, puis je crois à l'opportunité de réagir vite, puis de bâtir ton équipe vite. C'est ça que les partisans veulent.
Ray, le repêchage, ça a eu lieu avant hier, la première ronde télévisée, pour un repêchage virtuel. J'ai trouvé ça long un peu, moi, les 5 minutes entre chaque sélection, surtout pour le premier, alors qu'on savait, puis les Rangers savaient que c'était Lafrenière. C'est quoi ton opinion du repêchage? Comment tu as trouvé ça comme spectateur?
J'ai trouvé que c'était un peu passif du côté de Gary Bettman. Un peu trop tranquille. Pas assez de passion, pas assez de production excitante. Pour les partisans, pour les consommateurs qui regardent à la télé, j'ai trouvé que c'était un peu amorphe.
Ouais.
Et en plus, c'était long. Fait que là, j'ai vu ce que la NFL a fait au mois d'avril dernier. Puis Roger Goodell dans son sous-sol, puis les joueurs avec leur famille. Puis c'était tout virtuel, puis on avait des partisans d'un côté d'un écran. J'ai trouvé qu'évidemment, la NFL a de gros moyens, mais je trouve qu'ils ont fait une job spectaculaire. Je m'attendais à mieux de la Ligue nationale. Je m'attendais à un rythme plus rapide, plus d'excitation, plus d'énervement. Mais je comprends que nos défis de la COVID sont pas toujours si simples à régler. Tu sais, t'avais le troisième choix au total, Stutzley d'Allemagne, ouais. Là, chez lui. C'est pas évident là, de connecter tout ça. Je trouve qu'ils ont été créatifs avec l'implication là, de l'animateur de Jeopardy, qui a fait cette présentation-là pour les sénateurs d'Ottawa. Mais je trouve que le show manquait d'énergie. Et ultimement, ça fait des longues soirées, puis ça fait des longues journées. Puis je reviens toujours à ce que je dis, ça demeure un show télé pour rehausser la marque, le prestige, le marketing, puis l'image de la Ligue nationale de hockey. Fait que là-dessus, j'ai trouvé que c'était un peu lent, puis ça se vendait pas si bien que ça.
Ray, en terminant, Ligue de hockey, Jean-Major du Québec, on a appris que du côté de l'Armada, de Blainville-Boisbriand, plusieurs joueurs, 18 joueurs qui sont aux prises avec la COVID-19. Là, je viens de recevoir un communiqué sur le Phoenix de Sherbrooke. On parle de 8 joueurs qui ont testé positif à la COVID. Le Québec ne peut pas jouer en zone rouge. On ne sait pas ce qui va se passer. Du côté des Saguenayens, bon, on est encore en jaune ici, mais le match contre Québec a été évidemment reporté à plus tard. On en ajoute d'autres. Mm-hmm. Quelqu'un ce matin m'envoie un message, un auditeur que je salue. Il dit, coudon. Ils font-tu exprès pour étirer ça, pour avoir la subvention de 1,4 million par équipe? Parce que là, je me pose la question, ça va-tu mener à quelque chose ou... Parce que c'est pas... Parce que, tu sais, je sais qu'on aime ça nous faire croire que c'est une bulle, le junior majeur, qu'ils sont dans une bulle, là, mais c'est pas une vraie bulle comme on a connu dans la NBA et la LNH, Ray. Là.
Non, il y a deux bulles réelles, concrètes, c'était les deux que tu as mentionnées. ça coûtait très cher. Plus de 100 millions dans chacun des cas.
Oui.
Alors, ça, c'est évidemment, c'est pas abordable pour la plupart des organisations sportives dans le monde entier. Alors, enlevons ce modèle-là. D'ailleurs, la NFL qui a plus d'argent que tout le monde, ne sont même pas dans une bulle, puis ils en ont des gros problèmes, en commençant par les Titans du Tennessee, jusqu'aux Patriots, puis là, c'était les Vikings la semaine dernière, puis là, t'as un gars des Chiefs, puis écoute, ça va juste aller de pire en pire. Moi, je pense que il faut faire le maximum quand tu es une business commerciale et que tu as une responsabilité avec les jeunes et leur développement, il faut que tu fasses le maximum pour chercher des solutions pour poursuivre. Ceci étant, tu ne peux pas mettre la santé de ces jeunes-là à risque. Alors, facile de l'extérieur pour nous de dire, ben là, vous le voyez bien, il y a trop de cas, arrêtez puis cessez vos activités ou suspendez votre saison temporairement, comme c'était le cas au mois de mars dernier. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est facile pour nous de l'extérieur de dire ça. Mais le PDG d'une ligue, d'une entreprise quelconque, dans le sport ou ailleurs, que ce soit Gilles Courteau jusqu'à Adam Silver avec la NBA, eux autres cherchent des solutions. Ils cherchent des alternatives, des contingences pour continuer d'exister. Parce que c'est une business. Il y a des investisseurs, il y a des propriétaires, il y a des partisans. Il y a toutes sortes de parties prenantes dans l'équation. Fait qu'il n'y a pas personne, Marc, qui a la solution dans une boule de cristal, dire, ben voici ce qu'il faut faire. Parce que sinon, tout le monde ne serait pas en train de pivoter d'une journée à l'autre. C'est sûr que quand tu regardes le cas de l'Armada, les Remparts, puis là, tu as des cas, tu m'as dit, avec le Phoenix de Sherbrooke,
ouais.
C'est un peu dangereux, là. C'est un peu inquiétant. Fait que là, forcément, il faut mettre ça sur une pause pour ces équipes-là. Est-ce qu'on continue avec les autres? La NFL est obligée aujourd'hui de se poser la question s'ils doivent remettre à plus tard, une deuxième fois, un match des Titans de Tennessee. C'est une forte probabilité que ça arrive. Mais là, soudainement, on va devoir composer avec un calendrier où, à la fin, ils n'auront pas le temps de rattraper les 16 matchs, eux autres. Fait que ça va devoir être un pourcentage de victoires ou de défaites qui te permet de te classer ou non en série. Puis ça fait partie des ajustements puis des adaptations nécessaires dans une pandémie. Chose qu'on n'a jamais vécue dans le passé.
Non.
Fait que le hockey junior majeur doit tenter de poursuivre et de chercher des solutions tant et aussi longtemps que c'est gérable. Mais à un moment donné, si tu as compromis 3-4 de tes équipes, bien là, ça devient ton calendrier compétitif, Marc, n'a plus l'intégrité nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais il faut comprendre que c'est facile pour nous de commenter comme ça.
Oui.
C'est une autre chose d'être un dirigeant, propriétaire, investisseur ou commissaire dans une ligue qui essaie par tous les moyens possibles de poursuivre la marche vers l'avant. Puis c'est pas l'argent d'un côté comme la contribution du gouvernement ou que ce soit l'argent de la télé ou des commanditaires. C'est l'ensemble de tous les défis que ça représente. Fait qu'on n'a pas de réponse à ça. J'ai pas la je suis pas un prophète pour te dire que la Ligue devrait arrêter tout de suite ou non. Je pense que Gilles Courteau sait qu'est-ce qu'il fait depuis plus de 30 ans, là. Et puis, c'est un gars posé qui va réfléchir attentivement avec les investisseurs, puis ils vont prendre la meilleure décision. En attendant, ils avancent lentement, ils bifurquent, ils pivotent pour arriver à une solution.
L'image est excellente. Ray, merci beaucoup. À la prochaine.
Salut, Marc. Bonne journée à vous autres.
Bye-bye.